la couleur des idées. Pascal Seyss.
On y voit des feuillages, des fumées, des fruits et parfois des personnages. Il y a des arabesques et des oiseaux en blanc et noir, gravés parfois sur de la gomme, parfois sur du linoléum et imprimés sur du papier Japon. Madame, monsieur, bonjour et soyez les bienvenus ce matin. Dans la couleur des idées, nous accueillons quelqu'un de grave, quelqu'un qui grave et qui évide et qui sait ce que la couleur veut dire lorsqu'elle accompagne les mots et les idées. Et c'est Kiki Crèvecœur. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Jusqu'au 10 mai, vous exposez vos travaux dans une bibliothèque à la Vitokiana, située rue du Bémel, à Woluwe-Saint-Pierre. Il y a quelques mois, à la fin de l'automne, vous avez illustré Poids-Plume, un récit de Nicole Malinconi. Mais vous avez aussi accompagné l'écriture d'autres écrivains comme André Balthazar, Caroline Houx, Amélie Nothomb et Caroline Lamarche. Entre les pages est le titre que vous avez donné à cette exposition dans un lieu qui n'est pas anecdotique puisqu'il s'agit d'une bibliothèque, Kiki Crèvecœur. Quel est le rapport particulier que vous construisez entre l'image et le texte ?
Quelle vaste question ! Voilà, l'exposition à la Vitokiana, c'est une partie de mon travail seulement, et c'est une partie qui s'est construite avec le temps, donc ça retrace une période allant des années 89-90 jusqu'à aujourd'hui, et... Disons que dans le monde de la gravure, les graveurs, comme c'est un multiple, s'échangent, participent, font des éditions, des recueils. Et donc je suis venue un peu au livre par ce biais-là. Bon, évidemment, le livre, c'est quelque chose qui s'ajoute à ma vie, à mes cours, à ma vie professionnelle, à mon travail de recherche en tant qu'artiste, mais... C'est aussi l'occasion de prendre un texte ou de faire une rencontre, de laisser décanter les choses. Et puis, quand j'ai le temps, quand ça se met, quand je réfléchis sur le sens du texte, quoi, le livre se réalise.
Alors, c'est très élégant ce que vous faites, ce que vous réalisez, Kiki Crèvecœur. Alors, dans l'ordre des échanges, est-ce que c'est vous qui allez solliciter les écrivains ou c'est plutôt les écrivains qui viennent frapper à votre porte en disant « Votre univers m'intéresse et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?»
Alors, chaque livre ou chaque pièce exposée a une histoire. Et les histoires sont toujours différentes, mais il s'agit toujours d'histoires de rencontres. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. Donc, moi, je ne suis pas pressée. Par exemple, quand... le livre avec Caroline Lamarche, quand les éditions Tandem m'ont contacté à ce sujet, enfin, en me proposant de faire un livre, je crois qu'il s'est écoulé 8 années avant que je ne trouve mon auteur. Parce que, aussi, en fonction de l'éditeur, il y a des éditeurs, comme Jean Marchetti, qui est mon galeriste aussi, qui met en relation un auteur et un plasticien qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais travaillé ensemble. Donc, je travaille avec Amélie Nothomb, j'ai travaillé avec... Christine Caillon, une auteure française, normande. Dans le cas des éditions Tandem, c'est juste l'inverse. C'est à nous à trouver l'auteur. Mais ce n'est pas simple de trouver l'auteur. Donc, quand on m'a proposé ça, moi, j'étais super contente parce que j'adore les éditions Tandem. Et je me suis dit, mais quel auteur ? Et puis, j'ai pensé à un auteur. Et manque de bol, justement, Tandem publie l'auteur en question dans la collection dans laquelle je voulais le proposer et tout. Donc, je me dis, il faut que je trouve un autre auteur. Donc, ça a pris du temps. Et puis, ce n'est pas parce qu'on aime l'écriture d'un auteur qu'on va aimer le texte qu'il va nous proposer. Donc, moi, j'aime travailler avec le temps. Je ne suis pas pressée. Les choses se font ou ne se font pas. Je n'ai pas non plus envie d'être harcelante. Donc, j'ai fait plusieurs tentatives de contacter comme ça un auteur... Et puis, il y a des choses qui sont comme un soufflet qui retombe, pouf, voilà, qui ne se sont pas faites, mais ce n'est pas grave. Et je suis hyper contente d'avoir fait ça avec Caroline, parce que ça a été vraiment une belle aventure, une belle complicité. Ça a pris beaucoup de temps, mais ça s'est fait avec ce temps, quoi, et avec une réelle complicité, avec une réelle écoute. On s'est envoyé des mails, on s'est vus... j'ai remis mon travail en question, elle le sien, on intervenait. Enfin, c'était vraiment une belle aventure.
Voilà, une belle aventure qui est devenue un livre après 8 ans, qui s'appelle « Trogne ». Et il s'agit en fait d'un poème sur quelques saisons avec le mot « noir » qui revient. Et je vous propose, comme ça les auditeurs ils peuvent rentrer dans l'esprit de ce travail, d'écouter justement Caroline Lamarche qui nous lit ce poème.
Donc ça, on est au mois de mars, hein, c'est encore tout fermé, il n'y a pas du tout de verdure ni de repousse. Point, dur et noir, ni vif, ni mort, armure d'écorce, que rien ne touche, ni main, ni mot. Voilà. Il fallait chaque fois 12 lignes.
Ouais.
Donc, vraiment de jouer avec les mois. Puis là, ça commence à pousser un peu.
Voilà, Caroline Lamarche qui nous parle de ce projet. Donc 12 lignes et puis aussi 12 poèmes, puisqu'il y a 12 mois dans l'année. Et c'est devenu ce projet que vous avez réalisé ensemble, en tandem justement pour cette édition, et qui s'appelle Trogne. Alors en fait, d'où est venue cette idée de faire coïncider un mot qui voyage dans les saisons?
Avant de rencontrer Caroline, j'étais lauréate du prix de la Biennale internationale de l'estampe, qui avait lieu à Liège. Et dans le jury, il y avait Caroline Lamarche. Et j'avais exposé une série de troncs, donc ces arbres qu'on taille, hein, et qui sont un peu, comme m'avait dit une amie québécoise, mais qu'est-ce qu'on leur fait ici à vos arbres? On dirait des moignons qui poussent. Et c'est vrai que moi, ces arbres-là, ils me touchent. Je regarde souvent les arbres en ville qui sont taillés, qui peuvent pas pousser n'importe comment aussi. Et par exemple, à Boisfort, je suis servie. Moi, il y a des tas de troncs différentes. Quand vous regardez, vous vous baladez sur le rond-point des Trois Tilleuls, on dirait vraiment une cour de récréation. Enfin, tous ces arbres avec des arbres irrévérencieux qui se font des bras d'honneur. Si vous allez rue du Trône, par exemple, il y a des arbres, il y a des troncs. Et ces arbres sont tellement taillés. Enfin, on ne les voit même pas, quoi. En hiver, on dirait presque des fémurs, quoi. C'est juste un tronc, il n'y a plus rien, quoi. Et alors, à chaque printemps, ces arbres repoussent avec une vitalité, comme ça, c'est comme une, vous voyez, comme une résistance. Et ça me touche. Et donc, Caroline Lamarche, qui était dans le jury, a été séduite par ce travail. Et puis, bon, on s'est rencontrés timidement, comme ça. Et quelques temps après, on s'est retrouvés par hasard à une fête où on était invités et voilà. Et timidement, je lui ai proposé je me suis dit, mais au fond, je pourrais faire ce livre tandem, je vais lui proposer. Mais ça a été très timide, hein. C'était oui, peut-être. Et je venais de faire un petit calendrier sur les 12 mois de l'année avec des petites trognes. C'était Jean Marchetti qui avait publié ça pour envoyer ses vœux. Et donc, j'ai offert à Caroline ce petit calendrier. Et Caroline est partie de mon petit calendrier pour faire ses textes. Elle m'a dit, je vais reprendre un texte par mois. Et on va travailler au fil des mois. Donc, ça va durer minimum une année. Et puis après, encore du temps pour l'imprimer. Parce que ça a l'air très simple comme ça, mais ce n'est pas simple à imprimer, hein, des grands, des aplats.
On va y revenir d'ailleurs sur la question technique.
Et, et donc, une fois de plus, moi j'aime travailler avec le temps.
Thank you.
Une pièce qui s'intitule « Siamoise » et qui est aussi Kiki Crèvecœur, le fruit d'une collaboration, en l'occurrence entre Pirlli Tsourtzrassen et Jean-Pierre Catoul.
Oui, Pirlli est un ami et Jean-Pierre, je l'ai connu à l'Académie d'été de Wallonie, où j'ai donné cours pendant de nombreuses années. Mais avant de donner cours, j'ai découvert cette académie en 1983. C'était vraiment magique. Puis dans les années, début des années 90, j'y ai enseigné pendant un certain temps, au moins 10 ans. Et ces deux personnes charmantes, Jean-Pierre Catoul, j'ai toujours le souvenir d'un virtuose vraiment qui vivait sa musique, qui m'a beaucoup émue, moi. Quand, d'abord, il était super gentil, il nous parlait, nous, aux plasticiens. C'était l'époque où, au début, les secteurs musique, art plastique, se rencontraient moyennement, je vais dire. Et puis, au fil du temps, et aussi avec l'arrivée d'Eddie de Volder et de gens comme Marc Maréchal aussi, ça, il y a vraiment eu des fusions, il y a vraiment eu des rencontres qui se sont faites. Et Jean-Pierre Catoul était vraiment quelqu'un de très, très attachant. Et alors, bon, le soir, au bar, après quelques bières, il prenait son violon et il faisait un avec son violon. C'était vraiment... C'est des souvenirs qui m'ont marqué. Puis un jour, j'ai appris en rentrant le décès. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Et en fait, ce morceau, ce disque, en fait, est né d'une collaboration avec Pirlli, qui lui est bien vivant et qui fait de très belles compositions. En fait, on avait tous exposé à Redu, tous les plasticiens, tous les profs là. Et donc, lors d'une manifestation, Pirlli et Jean-Pierre Catoul ont joué. Et au moment, sous une bâche, et au moment où ils ont fait leur première note, il y a une pluie, mais qui est tombée sur cette bâche. C'était incroyable. Et c'était un moment vraiment magique. Et quand ce morceau est terminé, la pluie s'est arrêtée net. C'était dingue. Et alors, on est plusieurs à leur avoir dit, mais il faut absolument que vous fassiez quelque chose, un disque ensemble. Et finalement, ce disque est sorti, mais il est sorti juste après le décès de Jean-Pierre Catoul.
Voilà un album qui est donc le fruit d'une collaboration. Pour revenir à votre collaboration, vous, Kiki Crèvecœur, avec Caroline Lamarche notamment, à propos de vos estampes, elle évoque la force du style et la profondeur du rien. Alors on va parler de ce rien, on va parler de technique aussi dans un instant, mais alors je voudrais juste revenir dans votre parcours, puisque cette exposition à découvrir pour le moment à la Vitokéana et qui s'intitule « Entre les pages », propose aux gens qui ne connaissent pas encore votre œuvre un cheminement à travers votre travail. Mais alors, il y a un moment décisif dont il faut quand même parler, puisqu'il est décisif. C'est une lettre qui a quand même été importante dans votre carrière, qui Crèvecœur, une lettre datée du 14 décembre 1984 et qui a été écrite par Gabriel Beljeune. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette lettre qui a tout à fait, un moment, fait basculer votre travail ?
La première lettre. Donc oui, j'ai reçu cette lettre de Gabriel Beljeune, mais bon, moi, j'étais un peu, pas un électron libre, mais à l'époque, je suis sortie de l'Académie des Beaux-Arts, donc je n'étais pas une étudiante de Gabriel Beljeune. Donc il y avait Dacos à Liège, Beljeune à Mons à l'époque, moi j'étais à Bruxelles, etc. Donc je reçois cette lettre, mais j'avais gagné le prix de l'image imprimée de la communauté française, et c'était la toute première fois, donc le tout premier prix attribué, quoi. Donc j'étais très honorée de recevoir cette lettre de Gabriel Beljeune.
Mais qu'est-ce qu'il vous demande dans cette
lettre ? Il nous envoie à 12 personnes, il nous propose de faire un livre en 35 exemplaires, donc numéroté sur 30, avec 5 exemplaires hors commerce, et de faire un livre sur nous-mêmes, et de se revoir un an plus tard avec ces 35 exemplaires, 30 plus 5.
Excusez-moi, un livre sur nous-mêmes, c'est une carte blanche, en fait.
Oui, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qu'un livre pour nous veut dire ? Et on se donne rendez-vous dans un an et on s'échange ces livres. Et donc, moi, j'étais super emballée, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, ok, mais alors je dois tout faire, même le papier, quoi. Et donc, je me suis mise à cogiter, pas tout de suite, ça prend du temps. Et Donc je me suis dit, je vais partir du mot lire, lire un livre, et arriver à ivre, s'enivrer d'un livre, d'une histoire. Et donc je suis partie, donc j'ai commencé à déchirer toutes mes anciennes gravures un peu douteuses, à faire de la pâte à papier, à faire mon papier, à graver des gommes, donc des petites gommes à effacer, à faire comme des caractères mobiles, au lieu que ce soit en plomb, c'est en gomme, et à imprimer. Et donc je me suis dit, moi, la première chose que je vois quand j'ouvre un livre, c'est les espaces blancs qu'il y a entre les lignes. C'est vraiment quelque chose de graphique. Et donc si on regarde ce petit livre, il y a une espèce de progression qui part de la verticalité. Et donc on voit d'abord, on sait lire ce que je mets, et puis ça disparaît peu à peu. Et ça devient une page noire, mais cette page noire est composée de, je ne sais plus, 16 gommes, je crois, qui se superposent un peu. Donc, il y a un jeu vibratoire qui se fait. Et puis, l'image suivante, c'est un papier noir que j'ai fabriqué. Donc là, on est dans l'histoire et on peut rêver. Enfin, voilà, chacun interprète ça comme il veut. Et puis, on repart dans l'autre sens, dans le sens horizontal, où on a les espaces entre les lignes et on arrive au mot « ivre ». Et puis on referme, c'est comme un petit paquet précieux. Donc, je ne suis pas une grande couturière, mais j'aime bien jouer avec des ficelles pour faire les emboîtements de mes éditions. Voilà.
Vous évoquez le noir, c'est déjà le noir aussi, le mot qui revient, c'est peut-être pas un hasard, sous la plume de Caroline Lamarche. Kiki Crèvecœur, un dessin au crayon, puis repasser au bic, puis un évidement au cutter. Comment avez-vous construit votre grammaire? Pourquoi tout à coup vous êtes gravé des gommes?
Je pense que les gommes, c'est comme n'importe quel enfant qui va graver sa gomme à l'école. Disons que j'ai approfondi ce travail dans les années 80. Il y a eu plusieurs raisons, en fait. D'abord, je peux mettre des gommes dans mes poches, je peux les emporter avec moi, je n'ai pas besoin de presse. Je peux les graver n'importe où, mais c'est un tout petit endroit, enfin c'est une toute petite surface, et donc on peut aussi s'enfermer dans des gommes. Mais quelque part, moi les gommes, ça m'a permis, c'est comme mes amis, ça m'a permis à me construire aussi. Et j'ai cru que j'allais vite faire le tour de ces petites gommes, et en fait je me rends compte que j'aime bien travailler avec une économie de moyens et de toujours pousser les limites de plus en plus loin. Et donc parfois j'abandonne un peu quand je me sens un peu trop enfermée, timide et tout. Alors je peux aussi travailler sur du lino où je déploie mon geste, donc du linoleum, du balatum quoi. Je déploie mon geste à une plus grande, plus d'amplitude et tout. Mais si on met tout au même format, on va se rendre compte que et les linos et les gommes, on va reconnaître, montrer, enfin, je pense, quoi. Moi, ça me paraît évident. Voilà, et puis, oui, je peux aussi passer aussi bien du figuratif qu'à l'abstrait, ça dépend du projet. Voilà, je n'ai pas envie de me mettre des contraintes, quoi. C'est mon espace de liberté, quoi. C'est vraiment...
Mais déjà, la taille de la gomme, c'est une contrainte en soi.
Oh, c'est un petit monde, mais c'est un petit monde où on peut dire beaucoup de choses dans une petite gomme.
Fui estimé ce qu'on l'est parce qu'il me fallait tout que nous pour viquer. M'a dit cervelle. Nasti normé d'idée que mine et bacar à sens à rester. J'ai tchis commencé. J'crois qu'il y fait couper, il fait couper. Kamoulaka, kamoulaka, il fait couper, il fait couper. J'crois qu'il y fait couper, il fait couper. Kamoulaka, kamoulaka. Qu'il y fait couper, il fait couper, kamoulaka, kamoulaka, il fait couper, il fait couper. Tu crois qu'il y fait couper, il fait couper, kamoulaka, kamoulaka, kamoulaka.
ake bazor ake kayon ake maïsim sol kum tiesa maison dont beaucoup de ramon beaucoup de ramon beaucoup de ramon tu crois qu'il y fait copé il fait copé kamolaka kamolaka il fait copé tu crois qu'il y fait copé il fait copé kamolaka kamolaka pauvre tiesse voleur trop bien fait on t'a grouti disquette fait péter Kyrielle d'amour vont. Fallait tout ta replay, tout étonné, ne râler y passer. Fallait finfler, servir. Éco-poupus. Aster, il y fait couper, il y fait couper. Kamoulaka, kamoulaka, il y fait couper, il y fait couper. Aster, il y fait couper, il y fait couper. Kamoulaka. Sim sol qu'une tiède sa maison dont beaucoup de ramon, beaucoup de ramon, beaucoup de ramon. Tu crois qu'il y fait couper, il y fait couper kamolaka, kamolaka, il y fait couper, il y fait couper kamolaka. Tu crois qu'il y fait couper, il y fait couper kamolaka, kamolaka, kamolaka. Aster il y fait couper, il y fait couper kamolaka, kamolaka, il fait couper, il fait couper kamolaka. Aster il y fait couper, il fait
Vous écoutez Musique 3, la couleur des idées, avec la programmation musicale ce matin de notre invité, parce que nous parlons gravure avec Kiki Crèvecœur. Et ce choix donc, Amon Laka de Guy Cabé, avec une particularité linguistique.
Ah oui, c'est une bossa nova en wallon qui parle de sa tiesse, de sa tête donc. Et donc
de sa trogne,
pour revenir encore une fois. Oui. Mais voilà, moi je trouve que c'est une musique qui met de bonne humeur, qui en plus le wallon va super bien. Enfin, on s'en rend pas tout de suite compte que c'est du wallon. Et voilà l'histoire de la tête et de la mémoire, etc. Moi, ça me va bien. J'ai un peu une tête comme une passoire. Je fonctionne avec plein de listes et aussi avec mes gommes. Quand je fais mes gommes au jour le jour, c'est aussi pour moi, comme une mémoire dure, c'est mon disque dur. Donc, je vais revoir un spectacle que j'ai vu, dont je risque d'oublier le nom du spectacle ou quoi. Alors, je peux retrouver dans mes gommes le spectacle que j'ai été voir, des choses comme ça. Donc, voilà.
Votre mémoire en dessin, mais justement, vous disiez tout à l'heure que la gomme était un petit monde en soi. Alors, vous avez eu un projet qui s'appelle donc Une gomme un jour, on peut dire aussi un thé un jour, parce que je crois que vous aimez beaucoup le thé. Mais donc, Une gomme un jour et ses bobines de vie, de quoi s'agit-il en fait?
Ah oui. La gomme au jour le jour, c'est vraiment en parallèle à mon travail de plasticienne, d'enseignante, etc. Donc, la gomme du jour, c'est une gomme gravée au jour le jour, ou le lendemain matin, comme ça, la journée décante, et je peux mixer plusieurs choses en même temps. Et en fait, c'est codé, donc j'exhibe pas ma vie comme ça, c'est pas...
Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites c'est codé?
Ben, il y a des choses qui sont mélangées, que voilà, chacun peut interpréter ça. Et d'ailleurs, lors du vernissage, des personnes venaient me trouver en me disant « Oh, ça, c'est trop drôle ce jour-là !» Et je voyais qu'ils interprétaient à leur manière la gomme, ma gomme du jour. Et c'est assez drôle, en fait. Donc, c'est une gomme au jour le jour. Alors, je fais ça. Donc, j'ai fait ça 4 années complètes. C'est quand même beaucoup de boulot. Hein. Et puis, j'ai fait ça aussi. Je fais ça régulièrement quand j'ai des voyages pour le boulot. Hein. Parce qu'alors, ça me permet de... d'envoyer ce petit carnet de voyage après aux personnes que j'ai rencontrées. C'est comme un souvenir, comme une monnaie d'échange. Enfin, une monnaie d'échange, j'aime pas ce mot-là, mais c'est une pépite, voilà, que je renvoie. Et puis, on en fait ce qu'on veut, hein, on la garde, on la jette. Mais moi, c'est ma manière de créer un lien avec les personnes que je rencontre. Et donc, les bobines de vie, là, c'est un morceau de ma vie aussi. Et il y a un rapport comme avec le cinéma, quoi. Je veux dire, du temps qui s'écoule.
C'est ça, donc vous avez gravé des gommes,
voilà.
Vous les avez imprimées et juxtaposées les unes à côté des autres,
mais c'est
comme une fresque, c'est
voilà.
Ça ?
Voilà, donc par exemple, je crois que la première bobine de vie, c'était la rétrospective de la rétrospective. Donc quand j'avais exposé au Centre de la Gravure, j'avais en 2007 une rétrospective sur 20 années de gravure, mais pas les livres, le travail de graveur. Et là, je me suis dit, oh là là, tout à coup, je vais être mise en lumière, là, je vais me ramasser après. Et puis, en même temps, il y avait des gens qui me contactaient, qui m'envoyaient des messages d'encouragement, enfin, qui trouvaient l'expo chouette et tout. Je me suis dit, OK, il faut que je trouve un truc pour pas me ramasser après, enfin, hein, puisqu'on est mis en lumière, comme ça, tout d'un coup. Et donc, je me suis imposée cette histoire d'une gomme par jour et qui retrace la rétrospective de la rétrospective. Donc ça commence avec le premier jour qui est le vernissage à l'exposition, et puis etc. Le lendemain, je ne sais pas, le nettoyage à la maison. Et puis, enfin voilà, c'est au jour le jour.
Voilà, au jour le jour. Du coup, ça donne à celui qui regarde ou à celle qui regarde cette œuvre, ça lui demande beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et il y a quelqu'un qui a vu qu'il y avait beaucoup de choses à voir, c'est Alechinsky, du coup. Parce qu'il y a quelque chose de très semblable dans l'idée de cette frise comme ça, et cette succession de dessins qui, quand on prend du recul, est presque abstrait en réalité.
Oui, là, si on reprend la genèse de mon travail de gomme, au début, c'était très, très figuratif. Et donc, je travaillais avec ce que j'appelais une gamme de gomme sur un thème, par exemple, la boxe taille. Et donc, il y avait tout un petit combat de boxe. Donc, une vingtaine de gommes différentes gravées avec un gros plan, toutes sortes de plans différents. Et le gros plan avec les gants donnait le rythme dans l'image, ponctuait l'image. Et donc, de loin, évidemment, c'est ça qu'on voit. C'est le côté, c'est les masses noires et puis l'éclair, mais c'est surtout les masses noires. Puis quand on se rapproche, en fait, on se rend compte qu'il y a toute une petite histoire à découvrir. Ça, c'était le début de mon travail. Puis bon, je peux... Voilà, ça a évolué avec le temps. Mais oui, j'ai eu beaucoup de chance. C'est un grand bonheur et un grand honneur d'être invitée par Alechinsky au Botanique, qui est vraiment une référence absolue dans le monde de l'image imprimée et qui défend l'image imprimée.
Eh bien justement, nous avons une petite surprise pour vous qui est, écoutez bien, la voix de Pierre Alechinsky.
Je n'ai pas appris à peindre, je n'ai jamais étudié la peinture, je n'ai jamais osé me dire que je deviendrais peintre. Et je me suis inscrit dans une école où on apprenait la typographie et les métiers du livre. C'était une façon d'échapper au dernier de classe que j'étais à l'époque. Alors petit à petit, je me suis mis à peindre, mais sans maître. C'est-à-dire que des amis le sont devenus.
Voilà la voix de Pierre Alechinsky qui témoigne de son travail, de l'évolution de son travail aussi, son côté mauvais élève. Puis voilà, ça fait pas... Les mauvais élèves font de grands artistes. Vous étiez plutôt une bonne élève, vous, Kiki Krefka?
J'étais pas une élève super, mais je participais beaucoup aux cours. Et puis surtout, je voulais dessiner, quoi. En humanité, je suis allée en humanité artistique. C'était l'époque du rénové, donc on a été un peu les cobayes du rénové. Mais j'ai eu quelques profs assez géniaux, quoi. J'ai un prof de français qui nous faisait son cours en nous apprenant des chants de Brassens, de Ferrat. C'était assez folklorique quand même. Et surtout, mon prof de dessin, Huguette Hellmann, qui maintenant est une de mes étudiantes, qui est une dame, voilà, qui a un âge respectable maintenant. Mais elle a vu chez moi, d'abord, elle avait une grande ouverture Elle avait une armoire pleine de matériaux différents. Elle avait un classeur avec des tas de sujets qu'on pouvait aborder et tout ça. Mais elle a vu chez moi que ça m'habitait et elle me laissait encore plus de liberté qu'elle... qu'elle en proposait, quoi. Enfin, c'était... Et donc, je suis toujours restée en contact avec ce professeur depuis mes 12 ans. Et voilà. Elle était au vernissage.
Alors, il y a l'importance du dessin. Et puis, du dessin, vous passez à la gravure. Et quelque chose, quand même, de l'ordre de la découpe. Qu'est-ce qui fait que, tout à coup, vous orientez vers la gravure?
Alors, oui, j'ai d'abord fait du dessin aux Beaux-Arts. Je suis aussi allée à l'Académie de Boisfort grâce à Huguette, qui m'a fait découvrir cette académie. Bon, je suis de l'autre côté de la ville, hein, Molenbeek. Et elle me fait traverser le canal et je découvre Boisfort, extraordinaire, quoi. Et cette académie merveilleuse où, à l'époque, dans les années 70, il y a un professeur qui m'impressionne particulièrement, qui est Lucien Bratt, qui est décédé maintenant. Et au cours de Lucien Bratt, donc, il y a des gens comme Stéphane Mandelbaum, Pierre Thomas, Bernoulli. Mais on était tous très jeunes à l'époque, quoi. Donc, mais des personnalités vraiment fortes. Et à l'époque... Le dessin s'abordait d'une manière nettement plus académique. Moi, au Beaux-Arts, c'était trois semaines sur un dessin. Au plus, les dessins se ressemblaient. Au mieux, c'était... On restait sur un plâtre avec des feuilles plus grandes que nous. Enfin, et le soir, j'allais chez Lucien Bratt et on faisait des croquis de personnes qui bougeaient, des choses comme ça. Maintenant, c'est monnaie courante. Il y a ça partout dans toutes les académies. Mais à l'époque, c'était vraiment... C'était nouveau. Et donc, cette Académie de Boisfort a été une référence pour moi, comme l'Académie d'été a été vraiment une référence pour moi. Et donc, à un moment donné, j'ai dû m'orienter dans une section. Puis je me suis dit, bon, ben, en dessin, je dessine, je ne vais pas aller là. Et finalement, je ne sais pas très bien, c'est un peu par curiosité que je suis arrivée en gravure, les vieilles machines, le côté mystérieux. Et finalement, je suis très contente d'avoir été là. Parce qu'on peut travailler vraiment en solo, mais il y a aussi un rapport au groupe. Je veux dire, la gravure, ça demande un certain un matériel, quoi. Enfin, des presses, on n'a pas ça chez soi. Enfin, je veux dire, et donc, il y a quelque chose dans le milieu des graveurs. Enfin, bon, il y a des graveurs qui se replient un peu sur eux, hein, qui est un peu dans la poussière. Mais il y a d'autres graveurs qui, justement, bougent beaucoup. Et entre graveurs, c'est très convivial. Voilà, il y a un graveur qui arrive, il nous prévient, il peut travailler dans un atelier. Voilà, il y a comme ça une espèce de communauté bienveillante et sympathique dans le monde de la gravure. Puis ça permet... plein de choses, de faire des livres, d'aborder la gravure d'une manière plus picturale, d'une manière plus... de faire des miniatures. Enfin, en fait, il y a plein de possibilités. Et puis, on ne se prend pas trop la tête.
Et c'est comme ça qu'est né Raskas, par exemple?
Alors, Raskas, là, c'est une bande de potes. Donc, c'est un collectif de graveurs dont je fais partie depuis quasi le début. Et donc, on est nouveau dans les années, tout début des années 80, au moment où on quitte les Beaux-Arts, Anne-Catherine Van Santem, Jean-Claude Salemi, Claire de Soissons, José Leibart, c'est surtout Anne-Catherine, Jean-Claude et Claire qui créent Raskas. Et donc, on sous-loue d'abord une pièce chez Bernard Villers. Elles achètent une presse ensemble. Quelqu'un arrive avec un rouleau. Et voilà, l'atelier se monte comme ça au fur et à mesure. Et on se partage les frais. Donc, c'est un atelier privé. Et donc, après avoir loué d'abord un espace chez Bernard Villers, qui est du commerce, on a été chez Bernard Villers, près du Botanique, dans sa maison. On a loué un étage chez lui. Et puis, Quand il a eu besoin de son étage, on a trouvé un espace à Saint-Gilles. On est resté là à Saint-Gilles de nombreuses années. On avait un immense espace, pas chauffé, mais vraiment qui ne coûtait rien. Et puis, depuis une vingtaine d'années maintenant, nous sommes à Scarbec. Et on est 12. Et sur les 12, il y a toujours un noyau de base de 5-6 personnes. Mais voilà, depuis les années 80. Et moi, je trouve ça assez magique.
Mais c'est presque une famille.
Oui, mais c'est vrai que je n'y vais plus beaucoup pour le moment. Voilà, parce que j'ai un atelier chez moi, parce que je n'ai pas toujours besoin des presses, bien que j'ai ma presse est à Rascasse. Mais quand on était à Saint-Gilles, je n'avais pas d'atelier chez moi. Et voilà, j'ai profité de cet atelier et je sais que c'est important et que c'est vraiment quelque chose. Je trouve que c'est important, des choses comme ça.
Communautaire ?
Oui, de se partager cet espace, de rester solidaire, de... Voilà, maintenant, on le sponsorise un peu, mais c'est pas grave si j'y vais pas. Le truc existe, on a une bande de potes, voilà, c'est vraiment...
Ça crée des échanges fécondants aussi du point de vue artistique ?
Ça dépend des périodes. Il y a eu des périodes un peu... plate, parce qu'on a tous un boulot professionnel à côté, donc il y a plusieurs enseignants, il y en a qui travaillent qui sont médecins, il y en a qui, voilà, qui sont indépendants, donc ben, la priorité c'est le boulot, c'est de gagner sa vie quand même, enfin voilà, et puis cet espace nous coûte et on se partage les frais, et de temps en temps on ouvre, de temps en temps on ouvre sur un week-end, mais là ça demande aussi toute une organisation, il faut garder l'espace, il faut faire la pub, etc. Mais je trouve que c'est magique. C'est...
Sacré géranium, tu sens bon la terre et toi aussi l'anémone. Tulipe, je te préfère, puis de toute façon, vous sentez tout bon. Vous êtes toutes belles, mesdemoiselles. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Les poules et le coq se comptent fleurettes, c'est vrai qu'il est seul. Ce lapin, je crois que ça l'embête. Dis-toi le chien, je ne te prive de rien. Remue donc ta queue, fais-moi tes beaux yeux. Ah, ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Est-ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chaud. C'est vous les légumes, enfin je présume, vous n'êtes pas reconnaissable. Il faut vous dire que l'hiver vient de partir, le temps est encore variable. Un coup d'arrosoir avant la tombée du soir, un coup de râteau autour des poireaux. Oh, est-ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chou.
Il avait chanté Bruxelles des Canogan, oui, c'est votre oui. Choix musical Kiki Crève-Cœur avec ce sacré géranium qui chante aussi le même amour que vous pour les plantes, oui. Pour les jardins, pour les oiseaux aussi, c'était le cas d'un projet précédent, tout à fait récent avec Nicole Malinconi.
Oui, mais c'est un projet qui est venu, enfin voilà, j'ai fait un petit livre sur les oiseaux avant ça, qu'on peut trouver chez Tandem, mais il est épuisé. Donc en fait, j'aime bien les oiseaux. J'aime bien les petits oiseaux. Et j'ai un tout petit jardinet. J'ai commencé à m'y intéresser parce que j'avais des bergeronnettes de ruisseaux qui venaient chaque été. Et donc, je me suis mise à observer les oiseaux dans mon jardinet. Et donc, j'ai fait un livre qui s'appelle « Les petits oiseaux de mon jardin ». Mais voilà, on est quelques années plus tard et c'est plus du tout les mêmes petits oiseaux qui viennent dans mon jardin. Je n'ai plus de bergeronnettes qui viennent dans mon jardin. Je n'ai plus de merles. Il n'y a plus de rouge-queue.
Quels sont les oiseaux de vos jardins alors ?
Alors, il reste l'accenteur mouchet qui vient de temps en temps, les moineaux. Il y a toujours trois petits moineaux, trois petites mésanges bleues, trois petites mésanges charbonnières, rentemplant et rentemplon, enfin les deux pigeons ramiers, des pies.
Alors comment faites-vous, Kiki Crève-Cœur ? C'est-à-dire, vous les saisissez de votre dessin comme ça au vol ou vous les observez longtemps quand ils sont immobiles ? Comment on fait pour saisir les oiseaux de votre jardin ?
Alors, je les observe. Parfois, je les filme avec mon appareil photo. Alors, j'ai eu des cadeaux comme ça de petits oiseaux. Comme je n'ai pas vraiment de prédateurs dans mon jardinet, j'avais des nids. Chaque année, j'ai eu des merles, j'ai eu des bergeronnettes de ruisseaux, j'ai eu des rouges-queues. Bon, alors, maintenant, les corneilles, ils les mangent, quoi. Donc, maintenant, j'ai plus de... L'année dernière, j'ai eu un nid bourdon qui avait niché dans le nichoir à mésanges. Je me suis dit, bon, ben, c'est moins top que des oiseaux, mais je vais quand même les laisser vivre parce que c'est important aussi qu'on aille des bourdons. Mais voilà, je suis un petit peu triste que j'ai plus de petits oiseaux qui viennent nicher à la maison. Mais par exemple, j'ai eu ce pigeon ramier qui était dans mon jardin et que j'ai pu filmer. Le pigeon est resté 3 jours comme ça, enfin bébé pigeon, c'est assez moche. Et alors la mère venait le gaver et vraiment j'ai pu m'approcher et j'ai vu comment elle lui apprenait à voler, se mettait sur une petite branche et alors elle va chercher sous son aile l'aile du petit parce qu'il n'osait pas voler. Enfin, ça, je trouve, c'est des cadeaux, quoi. Donc, je m'approche pas trop vite, mais petit à petit, comme ça, on s'approprie et, enfin, on s'apprivoise plutôt. Et j'ai pu filmer ça, et donc je garde précieusement ces petits cadeaux dans mon téléphone.
Alors, lorsqu'il s'agit de dessiner, est-ce que ce sont les oiseaux que vous observez ou vous choisissez des images de livres alors ?
Ça dépend. Ça dépend. J'essaye surtout de les observer, mais ce n'est pas évident. Hein, donc, de les observer, de les photographier, de les reconnaître à partir de ça. Ça m'intéresse plus que d'aller regarder des livres. J'aime bien travailler sur le terrain, je dirais. Et donc, il y a eu ce livre sur les petits oiseaux de mon jardin. Et puis, j'ai fait un calendrier pour Jean Marchetti sur les oiseaux. Et c'est à ce moment-là qu'en fait Anne Leloup m'a téléphoné pour me dire « Écoute, j'ai un texte de Nicole Malinconi sur les oiseaux, est-ce que ça te parle ?» Je dis « Écoute Anne, tu ne peux pas mieux tomber, je suis en plein dedans. » Et en plus, Nicole Malinconi était un des auteurs auxquels j'avais pensé avec Tandem et que Tandem avait sorti un livre avec elle. Et donc voilà, avec le temps... Les choses se font ou ne se font pas. Et donc, je suis vraiment
C'est mieux quand
heureuse.
Elles se font.
Oui, c'est mieux quand elles se font. Mais ce n'est pas grave si ça ne se fait pas. Il y a d'autres choses qui se font. Et donc, voilà, Nicole Malinconi, je l'avais découvert avec son livre « Hôpital Silence » que j'avais vraiment trouvé terrible. Quoi. Enfin, et j'aime bien cette écriture comme ça, précise. Aussi, qui va à l'économie, où chaque mot est pensé... Et donc voilà.
Mais c'est une rencontre entre deux précisions en réalité. La précision de la gravure et la précision de l'écriture.
Oui, peut-être.
Alors, on peut peut-être parler, parce que vous insistez beaucoup sur le caractère précieux des collaborations auxquelles vous tenez beaucoup. Vous avez également réalisé, alors ça c'est original, parce qu'en général les artistes ils ont leur propre grammaire, alors parfois on collabore, mais vous avez carrément réalisé un travail à quatre mains, notamment avec Francine Turcotte qui est au Canada. Et donc vous avez fait des échanges d'œuvres, c'est-à-dire que chacun intervient sur l'œuvre de l'autre, c'est ça ?
Oui, j'ai fait ça avec Francine, j'ai fait ça avec Michel Barzin aussi, où il n'y a plus d'appropriation d'image. Et aussi dans le cadre de mes cours, je propose à mes étudiants. C'est aussi lâcher quelque chose, mais c'est aussi jouer. Ce qui est vraiment intéressant aussi au niveau de la gravure, c'est que, voilà, avec Francine, c'était une amie au Québec, donc on ne se voyait pas tout le temps. Une amie qui avait 3 enfants et qui voilà, on s'est dit, écoute, tu sais, moi j'aimerais bien faire un projet de correspondance. J'ai souvent fait ça, enfin, j'aime bien la correspondance. Et je dis, écoute, on pourrait s'envoyer une plaque, puisqu'on ne se voit pas très souvent, qu'on modifierait l'une et l'autre, mais vraiment quand on a le temps de le faire. Donc, voilà, quand tout est fait pour professionnellement, et puis qu'on se prend ce temps, on pense à l'autre. Et donc, la règle, c'était, on avait trouvé un format de papier et tout. La règle, c'était, la première qui a du temps commence. C'est Francine qui a commencé. Elle a travaillé sur une plaque de cuivre, et elle a donc fait son premier état. Elle a imprimé sa plaque 15 fois. Elle a fait un 16e tirage, qui est un bon à tirer, qu'elle m'a envoyé avec la plaque. Alors j'ai reçu cette plaque. J'ai commencé moi-même par l'imprimer 15 fois. Donc il y a 30 exemplaires. Et après avoir imprimé sa plaque, j'ai modifié sa plaque. Et je l'ai imprimée 15 fois, plus un exemplaire, un bon à tirer, que je lui ai envoyé avec la plaque. Et donc il y a eu des allers-retours. Cette plaque a voyagé bien plus que nous. Cette aventure a duré 6 ans. Cette aventure a pris une autre tournure parce que pendant l'aventure, Francine
est tombée malade.
Mais c'est une aventure, donc les échanges se sont faits moins fréquents parce qu'elle avait des traitements très lourds. Et puis, ça l'a tenue aussi. Et je sais que ça a été hyper important pour elle et pour nous. Enfin, à un moment donné, on savait qu'elle était condamnée. Et on a décidé de clore l'aventure. Et Francine a coupé la plaque en deux. Et donc, ce morceau de plaque est exposé à la Witok. Et aussi sa pointe sèche avec laquelle elle travaillait.
Voilà, l'art pour rester vivant. C'est la fin de cet entretien déjà. Kiki Crèvecœur, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous invitons le public, les auditeurs de Musique 3, à se rendre à la Vitokiana pour aller découvrir l'exposition intitulée « Entre les pages », le travail de Kiki Crèvecœur. Et je vous propose de nous quitter en musique avec
Gerrit Litz. Alors, là aussi, je reviens dans mes souvenirs. Gerrit, quand j'ai commencé l'Académie d'été comme stagiaire en 1983, j'ai été éblouie par son stage improvisation jazz. Alors, à l'époque, déjà, il y avait Fabrizio Cassol, il y avait Pierre Berthet qui jouait avec des instruments qu'il fabriquait, qu'il trouvait, il y avait Max van der Voorst. Et j'ai passé beaucoup de temps, moi j'étais en gravure, mais j'ai passé beaucoup de temps derrière la porte à écouter et à voir cet homme qui dirigeait ce stage d'improvisation avec une énergie et une inventivité et une chaleur. Enfin, c'était vraiment merveilleux. Au vernissage, j'ai revu une fille, Micheline, qui faisait partie de ce groupe que je n'avais plus vu depuis 1983. Et on s'est retrouvés. Donc voilà, c'est encore un cadeau. Et donc, Gerrit nous a quittés il n'y a pas longtemps, juste avant la Noël de cette année, enfin de l'année dernière. Et voilà, c'est un peu mon disque de chevet. Ce morceau-là, en tout cas, c'est très, très beau.
there was a bird most beautiful. Who did fly and soar? See, he was seen by a man most rich. The bird within his door, then he made for the bird a cloak of gold. And for his head a crown. Then the bird could not soar and fly. And he did die, he did die. Was a bird most beautiful. Who did fly and soar? See, he was seen by a man most rich. Who caught the bird within his door. than he made for the bird, a cloak of gold. And for his head, a crown. Then the bird could not soar and fly. And he did die, he did die.